Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde sur Radio Escapade. Nous sommes le jeudi 3 avril. Et nous sommes en direct pour quelques... Qu'est-ce que je vous ai trouvé ? Pas mal de petites brèves aujourd'hui. Un dossier un peu plus complet par contre sur une loi qui est à l'étude aujourd'hui concernant notamment la communauté des gens du voyage, mais de manière plus générale, tous ceux qui vivent en habitat mobile ou nomade. Et on va commencer par un petit communiqué qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment et dans les médias de la part de victimes des violences policières qui ont eu lieu à Sainte-Soline, puisque c'était il y a maintenant 2 ans. Un communiqué donc signé par les parents de Serge, Michael, Olivier ou Alix. Ce sont les prénoms de personnes qui ont été gravement blessées lors des manifestations à Sainte-Soline le 25 mars 2023. Ce communiqué s'intitule « Nous ne laisserons pas le silence recouvrir les violences policières de Sainte-Soline ». Il a été publié il y a maintenant 10 jours. Voilà, il rappelle déjà que la répression exercée par les forces de l'ordre a fait plus de 200 blessés à Sainte-Soline le 25 mars 2023 et que l'arrivée tardive des secours pour les prendre en charge a aggravé l'état de certains. Et bien quelques jours après ces faits, donc 4 plaintes contre X ont été déposées concernant les personnes les plus durement atteintes physiquement, donc les parents de Serge qui s'est retrouvé dans le coma. Vous en rappelez certainement, donc ses parents ont porté plainte pour tentative de meurtre et pour entrave volontaire à l'arrivée des secours, hein, puisqu'on le sait, des ambulances étaient sur place ou des pompiers, mais les forces de l'ordre ne les ont pas laissés aller dans le champ pour ramasser des blessés. Michael aussi a porté plainte, lui, pour tentative de meurtre et pour entrave volontaire à l'arrivée des secours encore. Olivier, pour des violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente, commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. Et enfin, Alix, pour des violences volontaires commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une interruption temporaire de travail de plus de 8 jours. Voilà, 4 plaintes en tout cas donc déposées contre X. Au début du mois d'avril 2023, le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, a bien lancé des investigations donc, sur les circonstances de ces blessures les plus graves occasionnées par les forces de l'ordre lors de la manif à Sainte-Soline. Eh bien, ça fait donc plus de 2 ans que ces plaintes ont été déposées et le résultat des investigations n'est toujours pas connu. Il a quand même été annoncé tout d'abord pour décembre 2023, puis pour mars 2024, puis juin 2024. Et en septembre 2024, le procureur de la République a été remplacé par M. Théillet et les conclusions des experts ont été remises à donc ce nouveau procureur de la République en décembre 2024. Il n'y a toujours rien qui a été diffusé, donc voilà, cette lettre des parents et des victimes demande que soit enfin levé le silence entourant les violences policières de Sainte-Soline. Et ça fait écho aussi au jugement qui a finalement été rendu dans l'affaire qui a suivi les manifestations dans le Tarn, au barrage de Sivens, qui viennent tout juste d'avoir été enfin donnés notamment par la Cour européenne, et ce 10 ans après, donc on espère que ces personnes arriveront à avoir en tout cas au moins une version officielle de la part de l'État avant cela. En Turquie, les mobilisations continuent avec une journée morte à l'annonce, une journée de boycott, donc commerçant total, à l'annonce notamment des étudiants. Et c'est une journée donc, qui a eu un gros succès, c'était ce 2 avril, un appel au boycott, donc du zéro achat, hein, c'est-à-dire personne ne consomme rien du tout. Cet appel a été lancé par les étudiants, puis soutenu par le principal parti d'opposition CHP, hein, dont le leader est en prison, et également le principal syndicat d'opposition, le DISC. Un appel à mobilisation, donc un boycott massivement suivi en Turquie, malgré que les responsables de l'AKP, donc le parti au pouvoir de Erdogan, se soient succédés à la télé la veille pour appeler à ne pas y participer. Les centres commerciaux, les cafés, les restaurants, les marchés, les spectacles, les magasins étaient tous fermés ou, s'ils étaient ouverts, étaient complètement vides. Et la population a bien pu le voir puisque cela a été partagé et amplifié, comme souvent ces phénomènes, par de très nombreux citoyens qui partagent des vidéos et des photos depuis leur téléphone portable sur des comptes sociaux. À côté de cela, il y a aussi le boycott des cours et des examens universitaires qui a commencé directement suite à l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, donc c'était le 19 mars dernier. Ce boycott des cours et des examens continue et s'amplifie, dans le sens que partout aujourd'hui, les étudiants ne se contentent pas de boycotter, mais ils vont également s'organiser à travers des assemblées générales, des débats, des conférences ou des spectacles pour aller finalement au-delà de la revendication de libération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Mais donc ces étudiants souhaitent aussi affirmer une volonté de construire un autre monde. Petit extrait d'un communiqué justement qui a été fait par les signataires de cet appel au boycott. « Les centaines, les milliers que nous sommes réunis aujourd'hui ne suffiront pas à vaincre un seul homme », qu'il parle d'Erdogan, ce qui est leur revendication fondamentale que la jeunesse universitaire a en commun. Nous ne pouvons détruire le pouvoir d'un seul homme qui s'oppose à nous qu'en détruisant tous ses instruments coercitifs, et donc que si des centaines de milliers de personnes se rassemblent. Pour empêcher le fascisme créé par le pouvoir d'un seul homme, l'unification de tous les secteurs de la société qui peuvent construire ensemble un avenir sans exploitation et dans l'égalité est possible. Nous sommes conscients de la responsabilité de transmettre l'appel à la grève générale et à la résistance générale à tous les secteurs de la société dans chaque région où nous sommes présents. À la fois, donc, il signe en tant qu'Université Anadolu, c'est le nom d'une fac, et avec nos amis de l'Université Osman Gazi qui nous soutiennent. Voilà, et des commentateurs rappellent aussi que pour cette initiative de boycott donc total, ces étudiants se sont inspirés de ce qui se passe dans les Balkans, là où aussi des étudiants, avec les étudiants serbes, qui sont en train peut-être d'entraîner le pays vers ce qu'on pourrait appeler une révolution, avec qui d'ailleurs les Turcs ont pris contact et dont en Serbie le boycott de l'économie qui a eu lieu le 1er février dernier s'était étendu avec succès à tous les pays des Balkans. Par ailleurs, ces étudiants turcs, tout comme les Serbes l'ont fait au début de leur mouvement, lancent aussi parallèlement des cours publics qui s'adressent à tous, donc l'université hors des murs, dans les bâtiments des universités, mais souvent aussi dans les parcs ou sur des places publiques, en cherchant à associer justement tous les citoyens au débat sur la société qu'ils souhaiteraient voir advenir. Et on part aussi faire un petit tour justement en Serbie, où c'est toujours un raz-de-marée de manifestations suivi massivement par la population. En moyenne, certains se sont amusés à compter, ça fait 56 manifestations par jour pour le mois de mars. C'est le Centre pour la Recherche, la Transparence et la Responsabilité, le CRTA, qui a annoncé qu'au moins 1697 manifestations avaient lieu en Serbie rien que pour le mois de mars. Et ce, dans au moins 378 communes, donc la moyenne de 56 dont je vous ai parlé. Si on faisait un petit parallèle avec la France, ça ferait environ 616 manifestations par jour pour ce mouvement. Et le mouvement en Serbie a commencé il y a 5 mois, sans jamais s'arrêter. À cela, faut s'ajouter donc ce dont je vous ai parlé aussi par rapport à la Turquie, des assemblées citoyennes de démocratie directe qui se mettent en place. C'est le mouvement étudiant qui a appelé à ces assemblées. Et le but, eh bien, c'est que le peuple prenne le pouvoir par lui-même. Donc, ils ne s'opposent pas frontalement au gouvernement, mais ils font des assemblées parallèles. Et il y en a environ 150 par jour qui se tiennent dans tout le pays, avec une création de 10 à 40 par jour, selon les jours. Donc, les petites villes, les villages, partout, voient se créer ces assemblées citoyennes de démocratie. Et enfin, notez aussi, ces derniers jours, le mouvement étudiant de la ville de Nice, donc en Serbie, a posé la question d'un gouvernement provisoire. Cette question devrait être discutée dans une assemblée générale nationale interétudiante dans la ville de Kragujevac peut-être, avant d'être soumise au peuple si les étudiants l'adoptent. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore de quoi il s'agit, mais en tout cas, la question est clairement posée de qui a le pouvoir et de comment est-ce qu'on prend le pouvoir. Donc ils sont partis a priori pour essayer de faire un pouvoir parallèle. Sale temps pour l'entreprise Tesla, ça continue hein, dans la nuit du lundi au mardi, donc entre le 31 mars et le 1er avril. Aux alentours de 4h du matin, un incendie a embrasé le parking d'une concession de la firme appartenant à Elon Musk. Et c'est en Italie, à Rome, que ça s'est passé. Les flammes ont ainsi détruit 17 voitures électriques. Les autorités parlent d'un acte volontaire et de vandalisme. Et Elon Musk lui-même a commenté les faits sur son réseau social X en utilisant le mot « terrorisme ». D'ailleurs, Elon Musk tweet compulsivement après chaque attaque contre ses véhicules. Hein. Il offre ainsi une visibilité massive au désarmement et au sabotage visant son entreprise. Ce qui n'aura peut-être pas comme conséquence, c'est bien justement de d'éteindre les flammes. Du côté italien, Matteo Salvini, le vice-premier ministre, a parlé sur X aussi d'un incendie criminel et a apporté tout son soutien aux milliardaires.
Il portera d'abord un grand coup au voyage en favorisant les expulsions, les saisies de véhicules.
En augmentant les amendes, les peines de prison pour les installations illicites.
Pire encore, avec cette loi, les expulsions pourront se faire directement sur nos terrains, au motif que nous sommes des pollueurs.
Concrètement, ça veut dire plus d'expulsions, plus de refus de stationnement, plus de discrimination. Ce serait un retour en arrière.
Un mépris total des engagements de la République envers les citoyens itinérants.
Pourtant, de nombreuses communes sont encore hors la loi et refusent de construire les terrains d'accueil et habitats. Rendez-vous compte, seuls 12 départements sur 95 respectent leur obligation.
Ce qu'il faut, ce sont des solutions d'accueil et d'habitat, pas davantage de répression.
Cette loi, si elle passe, rendrait encore plus difficile, voire impossible, nos déplacements, nos stationnements, nos droits les plus élémentaires.
Elle enverrait un signe terrible que nous n'avons jamais été des citoyens dans notre propre pays.
Et ne nous y trompons pas, cette menace vise tous les voyageurs, les circassiens, les forains, les commerçants itinérants, tous ceux qui occupent le domaine public pour vivre et travailler.
C'est pourquoi nous, présidents des associations, nous vous alertons aujourd'hui. Et nous vous appelons à vos tunnels prêts.
On veut nous interdire de voyager. Donc je compte sur vous tous. Soyez solidaires. Et c'est ce que nous, les associations représentatives, se sont engagés à le faire.
Voilà, un petit extrait d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, qui concerne principalement les gens du voyage, mais de manière générale, tous ceux qui ont le statut donc, de nomades. C'est une vidéo donc, tournée collectivement, qui réunit les représentants de 15 associations. Elle s'adresse aux voyageurs forains circassiens et plus globalement donc à tous les Français itinérants, hein, tous ceux aussi qui vivent en camion ou autres camping-cars. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, donc ce jeudi 3 avril, est débattu à l'Assemblée un texte de loi qui vise à durcir les dispositifs contre les occupations de terrains illicites, et donc en visant clairement la population des gens du voyage. Cette loi, c'est la loi Albertini, puisqu'elle est proposée par le député Horizon Xavier Albertini, soumise donc au vote de l'Assemblée nationale dans le cadre de la niche parlementaire de ce parti. Selon l'intitulé de la loi, ce texte vise à réformer l'accueil des gens du voyage, qu'une réforme, mais en gros, en termes de réforme, c'est plutôt une sanction, des sanctions augmentées qui vont s'appliquer sur les manquements des voyageurs lorsqu'ils s'installent sur des terrains sans autorisation. C'est d'ailleurs un déséquilibre hein, dans la loi qui a été dénoncé par la défenseure des droits le 21 mars dernier, qui pointe la dimension exclusivement répressive de cette proposition, avec aucune proposition de solution concrète. Et cet avis est partagé donc par les associations, vous l'avez entendu, pour qui la proposition de loi introduit avant tout des mesures d'exception et discriminatoires qui auront pour conséquence de sanctionner le mode de vie des voyageurs et des voyageuses dans leur ensemble. Par exemple, Nara Ritz, qui est coordinateur de l'Observatoire pour les droits des citoyens itinérants, parle d'un dispositif fascisant et d'un texte qui renforce les préjugés négatifs sur ces populations. Dans le détail, donc deux grands axes autour de cette loi. Tout d'abord, des sanctions alourdies quand on occupe illégalement un lieu, avec notamment le doublement d'une amende forfaitaire qui est pour l'instant de 500 euros, elle passerait à 1000. Il serait aussi possible de saisir un véhicule qui ont permis une occupation, y compris lorsqu'il a été transformé pour être un véhicule d'habitation, par exemple un camion aménagé, sauf les caravanes. Et dans le même temps, le fait de s'installer sans titre, donc sans autorisation, sur un terrain, pourrait être raccordé à un délit, le délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Et donc, ça pourrait vous coûter 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison. Dans un deuxième temps, ce texte veut travailler d'un autre côté, donc à alléger la législation et à assouplir tout ce qui est procédure d'expulsion quand un terrain est occupé illégalement. Par exemple, le préfet pourra mettre en demeure les occupants pour une durée de 14 jours et non plus 7. Et le texte permet aussi que le recours à la force publique, hein, la gendarmerie par exemple, au terme de cette période de demeure, ça pourra se faire quasiment automatiquement sans forcément passer par l'approbation d'un juge. Ça, c'est une tendance assez lourde, hein, qu'on voit dans pas mal de domaines, où c'est la police qui se retrouve elle-même administrativement dépositaire de la justice et qui donc peut prendre des décisions sans passer devant le tribunal. La défenseure des droits, d'ailleurs, se montre très sévère sur tous ces points. Elle cible notamment cette augmentation de l'amende qui prévoit donc d'éloigner davantage du juge un public qui est déjà vulnérable. Pour ce qui est de la suppression du contrôle des procédures par un juge, la défenseure des droits met là aussi en garde contre des violations irrémédiables de l'ensemble des droits liés à la protection du domicile et notamment du droit au respect de la vie privée et familiale. Et quand on sait tous les préjugés et discriminations dont sont victimes les gens du voyage, on se doute bien que effectivement la police va pas forcément faire dans la dentelle pour régler certaines situations. Et enfin, la défenseure des droits revient sur cette question de saisie des véhicules. Hein. Tout cela, les saisies peuvent être des sources de potentielles ingérences dans le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété, puisque concrètement, ça peut être votre domicile qui va être saisi. Et elle y voit donc des mesures disproportionnées. Le rapporteur de cette proposition de loi, donc Xavier Albertini, lui préfère évoquer la nécessité d'étendre l'arsenal juridique face, dit-il, à l'exaspération de propriétaires de terrains privés qui voient leurs biens occupés. Ce constat, dit-il, est nourri de son expérience d'adjoint à la sécurité auprès du maire de la ville de Reims. Et d'ailleurs, sa démarche est fortement appuyée par Bruno Retailleau, avec qui, dit-il, il échange beaucoup. Et en effet, en ce moment, le ministre de l'Intérieur, donc Bruno Retailleau, parle beaucoup de cette question qui, visiblement, est centrale en ce moment dans le débat public, puisqu'il vient de lancer un groupe de travail sur la question des modes d'accueil des gens du voyage. Et cette proposition de loi examinée aujourd'hui pourrait donc être le premier pas vers une remise à plat de la loi Besson qui date de 2000 et qui fait aujourd'hui autorité. De nombreuses voix qualifient cette démarche de tout simplement raciste, mais M. Albertini réfute l'accusation et je cite « À propos des populations du voyage, il dit « Je ne globalise pas, je dissocie le bon grain de l'ivraie ». Et sur la possibilité de saisir les véhicules, il se félicite de cette mesure impactante, dit-il, car on sait l'importance qu'attache cette population à ces véhicules. Voilà, je vous laisse libre d'évaluer le degré raciste ou pas de cette défense. En tout cas, ce que pointe la parlementaire dont je vous ai parlé, ou les associations qui représentent les gens du voyage ou les forains, eh bien, c'est que cette proposition de loi tourne le dos à la principale urgence, qui est vécu par les populations itinérantes et qui est souvent la cause de ces occupations illicites de terrain, c'est le manque criant de lieux pour s'installer légalement et dans des conditions décentes, donc les aires d'accueil. Sur cette question, explique William Hacker, qui est juriste et délégué général de l'Association nationale des gens du voyage citoyen. Sur cette question, donc, il y a un enjeu social et c'est celui de l'espace. Il n'y a pas assez de lieux d'habitation, explique-t-il. Il y a plus de voyageurs que de lieux d'habitation et on ne propose que des lieux impropres, des parkings, à des gens qui ont des besoins différents. En effet, selon le dernier décompte en date obtenu par cette association, seulement 12 départements de France se conforment aux objectifs fixés concernant les lieux d'accueil pour voyageurs et voyageuses. Et alors la petite cerise sur le gâteau qui passe mal, c'est le préjudice écologique qui s'est aussi rajouté dans cette loi. En effet, parmi les facteurs aggravants qui sont liés à une occupation illicite, la proposition de loi souhaite introduire le critère donc de préjudice écologique. C'est ce qu'explique donc Xavier Albertini, le rapporteur de cette loi. En cas de stationnement long, il peut y avoir des pratiques de découpage de véhicules, de vidange, des activités liées à la ferraille, avec un risque non négligeable de pollution des sols. Une petite ironie que goûtent assez peu les associations qui, justement, passent leur temps à dénoncer les pollutions auxquelles sont exposés les voyageurs sur les aires d'accueil, puisque ces aires d'accueil sont souvent installées, coincées entre la déchetterie ou des sites industriels. C'est un texte prévu pour les gros pollueurs qui se retournent contre les plus précaires, déplore là aussi le juriste William Hacker. Et si on revient sur les conditions de vie et les impacts sur la santé, les voyageurs, donc les gens du voyage, ont 15 ans d'espérance de vie de moins que la population. C'est bien qu'il y a un problème. On part du principe qu'ils créent des problèmes écologiques, mais on ne se soucie pas de la question quand on les met à côté de sites Seveso. Alors sur cette question des lieux d'accueil, hein, si Xavier Albertini reconnaît que son texte n'aborde pas de front la question, puisqu'il a été allégé sur cette question-là, il veut tout de même, lui, y voir une dimension incitative pour les communes. Et en effet, selon lui, pour pouvoir bénéficier donc du recours à la force publique pour une expulsion dans ce cadre de cette nouvelle loi, les villes de plus de 5000 habitants ont intérêt à être en règle au niveau du nombre de places d'accueil proposées. Alors, ont intérêt, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais à ses yeux, en tout cas, l'attrait de ces expulsions plus faciles encouragerait les maires à créer des places. Ça reste à voir sur le terrain. Cet argumentaire, en tout cas, n'a rien pour convaincre les associations qui sont habituées à voir se créer des aires d'accueil à la va-vite, inadaptées et donc boudées par les populations qui préfèrent s'installer sur d'autres terrains. Avec cette proposition de loi, on est sur des enjeux électoralistes, avec l'implication personnelle de Retailleau, mais aussi les municipales qui approchent. C'est un texte de loi répressif où personne n'a réfléchi à rien. Que ce texte aboutisse ou non, parce qu'il y a quand même des chances qu'il passe pas, en tout cas, les militants sont convaincus qu'il y aura sous peu une nouvelle loi. Bruno Retailleau, explique William Hacker, est sursollicité par des élus locaux. On leur a promis un texte avant l'été, et ces dispositions seront forcément reprises.
Si cette loi est votée, nous devrons répondre par la mobilisation, par l'unité, par la présence sur le terrain.
Le 3 avril, la République sera à l'épreuve.
Non à la loi Albertini. Oui à l'égalité des droits.
Arrêtons de nous effacer.
Donc face à ce qu'ils vivent comme la plus importante attaque depuis des années contre leur mode de vie, mais aussi des droits fondamentaux, les associations représentantes des gens du voyage entendent serrer les rangs si la proposition de loi est adoptée par l'Assemblée puis au Sénat. Et plus largement, vous l'aurez entendu, ils expliquent rester sur les gardes pour les textes à venir. On ne va pas se laisser faire, prévient Nara Ritz, il y a 20 ans. On est monté à 10 000 à Paris, on peut faire plus. Et je profite de cet article qui était dans les colonnes de Mediapart pour vous inciter à aller au musée Cévenol du Vigan, qui vient tout juste justement d'ouvrir une exposition consacrée aux gens du voyage. Ça s'appelle Trajectoire gitane dans l'agriculture. On l'a visité d'ailleurs hier en avant-première et j'ai ramené du son. Je vais essayer de vous diffuser ça normalement demain vendredi à 18h. C'est justement sur la place des gens des communautés du voyage dans les filières, que ce soit maraîchère ou historiquement aussi sur la question de gestion du bétail, de commerce de chevaux, tout ce qui était lié à la boucherie en ville, notamment à Montpellier et à Nîmes. Voilà, il y a plein de photos, plein de témoignages. C'est vraiment passionnant. Donc c'est au musée Cévenol du Vigan et ça s'appelle Trajectoire gitane dans l'agriculture. Elle vient d'ouvrir et elle est encore installée, je crois, pour au moins un petit mois.
Des nouvelles du monde.
On termine ces nouvelles du monde avec deux petites brèves piochées dans le journal écologiste Reporter qui nous parle des PFAS encore, les polluants éternels, et notamment la pollution des eaux. On commence à identifier les responsables. C'est l'ONG Génération Future qui fait un gros travail sur cette question, qui explique que 140 sites industriels sont à l'origine de la quasi-totalité des rejets de ces PFAS dans l'eau. Cette étude a été publiée ce mardi 1er avril donc par l'ONG Génération Future et l'association a cartographié les 225 usines les plus émettrices de France. C'est un rapport inédit qui s'appuie sur l'exploitation des données collectées par les DREAL, Direction Régionale de l'Environnement, et ce auprès d'environ 2700 installations classées pour la protection de l'environnement. Et là-dedans, donc, 225 usines sont les plus émettrices et sont responsables. 146 de ces usines sont responsables de quasiment toute la pollution et les rejets de PFAS dans l'eau. Parmi les sites pollueurs, Il y en a 13 qui sont carrément les super émetteurs. Et je vous en parle régulièrement. Il y a Arkema près de Lyon, Solvay dans le Gard et Chemours dans l'Oise. Les deux usines dernières, les deux usines dont je viens de vous parler, hein, Solvay et Chemours, sont d'ailleurs en train d'essayer de plier bagages de manière assez discrète et sans s'acquitter de leurs droits, notamment auprès de la santé de leurs travailleurs. Quelques mauvaises surprises en plus dans ce rapport, hein, à savoir à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est l'usine pharmaceutique Finorga qui a évacué jusqu'à 180 kg de fluor organique en un seul jour vers la station de traitement des eaux. Et donc ce ne sont pas des choses qui se terminent dans les boues, hein, ça repart après dans les rivières et dans l'eau potable. Les sites industriels qui ont été identifiés sont pour la plupart des usines qui fabriquent des pesticides, des médicaments ou alors qui utilisent notamment des mousses anti-incendie, par exemple pour ce qui est de toutes les raffineries Total Energy qui sont très polluantes en PFAS. La lueur d'espoir, estime Pauline Servant pour Génération Future, c'est qu'il apparaît possible de mener des actions ciblées sur ce nombre restreint d'usines. L'ONG demande donc de renforcer la surveillance de ces polluants éternels, de réguler les émissions et d'appliquer surtout le principe pollueur-payeur afin que ces industriels payent pour la dépollution nécessaire de l'eau du robinet, et ce avant de délocaliser leurs usines en prétextant des manques à gagner.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'ils foutent en milieu rural aussi ?
Le niveau de vie moyen d'une personne sera réduit de 40%, le niveau de vie, à savoir le PIB, hein, le confort, on va dire, avec un réchauffement climatique qui serait évalué à plus 4 degrés Celsius en 2100, donc moins 40% de PIB par personne. Ce sont des chiffres qu'une nouvelle étude vient de donner. Elle a été publiée ce 31 mars dans la revue Environmental Research Letters. Les recherches précédentes estimaient la perte économique environ 11%, et ben on est passé à 40%. Ils ont pour cela intégré la météo mondiale dans les modèles économiques, et ces chercheurs, donc australiens, ont pu montrer que les pertes du produit intérieur brut, c'est ce que produit une nation mondiale, seront significativement plus importantes par rapport donc aux dernières estimations. Selon l'auteur principal de l'étude, Timothy Neal, aucun pays ne sera épargné. Et cela vient aussi contredire des précédentes recherches qui disaient que. Infirmaient cela. Et donc l'économie de certaines régions du monde, comme la Russie ou le nord de l'Europe, subiront aussi des conséquences négatives avec une telle augmentation de climat à plus 4 degrés Celsius, ce qui, je rappelle, est très très loin des 1,5 degrés de l'accord de Paris. Mais visiblement, en tout cas pour l'instant, les efforts ou le peu d'efforts qui sont faits dans ce sens nous conduisent vers ce genre de trajectoire. Si on arrivait malgré tout à maintenir l'augmentation des températures mondiales à plus 2 degrés Celsius, cette étude révèle que le niveau de vie moyen d'une personne baissera de 16%. Actuellement, je vous le disais, on est environ à 1,1 degré Celsius en moyenne dans le monde et on devrait atteindre 1,5 d'ici 2030.
L'air pur, l'eau pure à une terre saine. De ces trois choses, nous n'en avons plus une seule. Voilà, et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
Allez les amis, on se quitte là-dessus. Un petit peu de musique quand même pour finir, on a 3 minutes. Et puis en ce moment, moi j'ai envie d'écouter plutôt du punk. Donc je vous propose d'écouter le groupe Rough Francis. Ce sont des jeunes musiciens américains dont nombre du groupe sont les enfants d'un groupe qui avait défrayé la chronique à la fin des années 70 qui s'appelait Death, qui était un petit peu considéré comme le premier groupe punk fait par des gens noirs. Et donc le morceau s'appelle Urgent Care, soins urgents, et c'est donc Rough Francis qui clôt ses nouvelles du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
chercher des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à midi et demi sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.